Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Déjà la rue s'éveille, c'est le lit qui bonjour. Le soleil aux merveilles sublime les faubourgs. Bonjour mon père, ma mère.
Bonjour mes chers enfants.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour madame Durand.
Good morning Mr. Kane.
Buongiorno signora.
Bonjour Bella Tanielle.
Bonjour Calimera.
C'est le matin, ça chante sous le soleil tout neuf. Qui glisse sur la pente, tout est frais comme un œuf. Et la moitié du monde dans la fraîcheur du jour se salue à la ronde. Calimera, bonjour. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci, ne sont-ils plus que formules? Nos bonjours, sept protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Bonsoir, le jour décline, le vieux soleil s'en va. Bonsoir.
Good evening.
Bonsoir.
Buonasera.
La journée est finie.
Les ateliers fermés.
Oh, que c'est bon la vie dans le soir embaumé. Bonsoir, cher baron.
Bonsoir, mon général.
Oui, bonsoir, c'est la bonne.
Et bonsoir, Marie Chantal.
Tandis qu'outre Starine, Frau Professeur König, dans sa langue divine lance un
Goutnapik. Mais le peuple hellénique, assis sur l'agora, salut le ciel attique, bonsoir Calispera. Pourquoi ces mots qui naguère avaient un sens très précis d'accueillir de joie sincère ces mots qui disaient merci, ne sont-ils plus que formules? Nous bonsoir, ces protecteurs, distraits, pincés, ridicules, sont toujours pauvres de cœur.
Déjà la rue se vide sous les lampions éteints et dans l'ombre languide minuit sonne au lointain.
À l'hôtel de la lune, des couples enflammés s'en vont chercher fortune. Bonne nuit, bien-aimée.
Bonne nuit, Tourterelle.
Good night, Romeo.
Dorothée, Isabelle.
Il a beau, mais Julot.
Bonne nuit, juge intègre. Votre bourreau demain pendra le pauvre nègre. Bonne nuit, dormez bien.
Petits enfants,
poète,
belle señoritas, buenas noches.
Good night.
En grec,
kalinikta. Si ces mots étaient sincères, tout changerait à l'instant. Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis.
Bonjour voisins, spécial animaux aquatiques aujourd'hui. Vous êtes sur Radio Anguin, on est le mardi 23 avril. Et vous passerez 7 heures en compagnie de Pascal et Brigitte de l'association L214, qui est une association de protection animale qui vous retrouve à l'antenne une fois par mois. Donc aujourd'hui, le thème va vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans le milieu marin. Et nous recevrons à 11h15 Lamia Essemlali, qui est présidente de l'association Sea Shepherd, dont elle nous parlera, qui mène beaucoup d'actions justement en direction des animaux marins. Pêche ou aquaculture, artisanale ou industrielle, durable ou pas, nos activités aquatiques ont des conséquences fâcheuses sur le peuple des océans. Parmi les vertébrés, ce sont les poissons qui ont le plus souffert d'une conception erronée de l'échelle de l'évolution. Au cours des dernières décennies, cependant, cette erreur a commencé à être corrigée. Nous nous rendons compte maintenant que, comme le reste des vertébrés, les poissons présentent un riche éventail de comportements complexes et que l'apprentissage joue un rôle central dans le développement de leur comportement. Les poissons ont en réalité une mémoire à long terme impressionnante, contrairement à l'idée qu'on se fait de la mémoire de poisson rouge, comparable à celle de la plupart des autres vertébrés. Leur système nerveux comporte à la fois des composantes analogues et des composantes homologues à celles des mammifères. Et le poisson est capable d'à peu près la même puissance de traitement que ses compagnons mammifères. Donc tout d'abord, pour commencer cette émission, quelques histoires, comme on le fait chaque mois, pour nous éclairer un petit peu plus sur les animaux qu'on va découvrir aujourd'hui.
Oui, en effet, bonjour à tous. Il s'agit de l'histoire d'un dauphin qui se passe en Californie du Sud. Désireux de voir des dauphins s'amuser dans leur milieu naturel, des touristes étaient venus à la rencontre, au large de Dana Point. Mais leur enthousiasme est vite retombé lorsqu'ils ont réalisé qu'ils assistaient à une forme de cortège funèbre. L'instant était poignant, au point de rendre muets certains touristes. En effet, sous leurs yeux, un dauphin adulte nageait péniblement avec un bébé dauphin mort sur le dos. une première en 20 ans de carrière pour le capitaine Dave Anderson, qui a expliqué qu'il était possible que le bébé soit mort depuis plusieurs jours, voire des semaines, car sa chair était en décomposition. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi émouvant que cette mère qui semblait refuser de laisser partir son petit. La mère et son petit étaient entourés par des congénères, comme pour les protéger. Ce dauphin sera vu une heure plus tard par un autre bateau du tour opérateur, le cadavre de son bébé toujours accroché à la nageoire. Émotion intense pour le capitaine et les touristes qui ont assisté à cette scène et qui ont pu prendre conscience de la sensibilité des animaux. Une autre petite histoire de deux poissons qui vivaient en aquarium. Il s'agit de Blackie, poisson rouge de variété Moore, qui pouvait à peine nager en raison d'une grave déformation. Big Red, poisson rouge plus gros de type Oranda, sentit sa détresse. Dès l'instant où Blackie avait été ajouté à son aquarium dans le magasin d'animaux, Big Red s'était mise à s'occuper de lui. Il surveille sans relâche son copain malade, le soulève doucement sur son grand dos et le promène à travers l'aquarium. Rapporte en 1985 un journal sud-africain. Chaque fois que la nourriture était saupoudrée à la surface de l'eau, Big Red y portait Blackie pour qu'ensemble ils puissent y manger. Cela faisait un an que Big Red faisait ainsi preuve de compassion, selon le propriétaire du magasin. Voilà encore une histoire d'une petite baleine blanche qui a malheureusement vécu 30 ans dans un aquarium à San Diego, en Californie, mais qui a interpellé les chercheurs biologistes marins. En effet, les sons particuliers émis par ce cétacé, appelé NOC, ont été enregistrés. Une analyse acoustique a permis de conclure que cette baleine était capable d'imiter la voix humaine. Tout a commencé en 1984, quand ces scientifiques ont remarqué des sons inhabituels dans l'aquarium où vivaient cette baleine blanche et des dauphins. Cela faisait penser à une conversation entre deux personnes trop éloignées pour que ce soit compréhensible. Les chercheurs ont pu finalement déterminer avec surprise que ces sons provenaient de NOC quand un plongeur qui travaillait dans le bassin où se trouvait la baleine est remonté à la surface en demandant qui lui avait dit de sortir de l'aquarium. NOC avait vécu avec des dauphins et d'autres baleines blanches et s'était souvent trouvé en présence d'humains. Sam Rigway de la National Marine Foundation, principal auteur de cette découverte, explique que de tels efforts laissent à penser que ce beluga cherchait à avoir un contact avec les humains. Selon lui, la baleine a imité des sonorités humaines pendant environ 4 ans jusqu'à ce qu'elle parvienne à maturité sexuelle. Des cas de baleines imitant la voix humaine avaient déjà été signalés auparavant, mais c'est la première fois que des scientifiques enregistraient de tels sons, prouvant bien que ces cétacés étaient capables de reproduire des sonorités ressemblant à celles de nos cordes vocales. Ceci est d'autant plus remarquable que les baleines produisent leur son par leur conduit nasal et non pas avec le larynx comme chez les humains. NOC devait ainsi moduler la pression de l'air de ses narines et effectuer d'autres ajustements musculaires pour imiter la voix humaine, ce qui était loin d'être facile. Voici encore un exemple qui confirme notre méconnaissance des animaux concernant leur langage et leur capacité à communiquer.
Et oui, leur habitat et leur environnement couvrent 70% de la surface du globe. Et pourtant, nous les connaissons vraiment très peu. Et malgré cela, nous n'hésitons pas à les décimer à grande échelle et à les tuer dans des conditions terribles. Alors que la consommation de chair des gros mammifères comme les bœufs ou les veaux baisse, celle des poissons augmente considérablement. Promue comme une alternative saine, elle semble surtout ne pas impliquer de problèmes éthiques. La considération pour les animaux augmente, les prises de conscience émergent, lentement, mais vraiment trop lentement pour les poissons. Ce sont pourtant de loin les victimes les plus nombreuses de notre consommation de chair. Ce sont plus de 1000 milliards de poissons qui sont tués chaque année dans le monde. Un nombre incommensurable. Pour se rendre un petit peu compte des conditions de capture des poissons, il faudrait qu'on imagine la situation à l'inverse. Par exemple, si pour les mettre à mort, tous ces animaux terrestres, si on mettait à mort les animaux terrestres, on les jetait dans les étangs, dans la mer. On trouverait ça absolument horrible de faire mourir par noyade tout un tas d'animaux terrestres. Pour les poissons, c'est exactement ce qui se passe. On les sort de la mer et on les laisse suffoquer pendant des heures sur les ponts des bateaux. Autre situation, pour capturer les poissons, on utilise bien souvent des filets. Des filets qui ont des dimensions vraiment énormes. Imaginez un filet suspendu de la tour Eiffel jusqu'à la Bastille sur quelques kilomètres de long. C'est pas les plus longs filets, hein. Dans la mer, il y a des pièges bien plus importants que ça. Et voilà, ça vous donne un petit peu une idée si on essaye de capturer les oiseaux avec un filet tendu de cette façon entre la Bastille et la Tour Eiffel. Cette espèce de piège géant, imaginez un peu le nombre d'oiseaux qui pourraient se prendre dedans et de quelle façon ils pourraient réagir. Piégés dans ce filet, les ailes engagées dedans, c'est un peu la même chose pour les poissons avec leurs nageoires qui sont prises à l'intérieur.
Dans quelques instants, nous recevrons Lamia de Sea Shepherd. En attendant, une petite pause musicale.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage. Ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel, bien plus qu'un message, et pourrait d'un coup changer au cours du voyage. Des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimer d'amour tendre.
Retour sur Radio Anguin, on vient d'entendre Juliette Gréco avec ce grand classique, cet amour impossible entre un petit poisson et un petit oiseau. Tout ça pour revenir à la mer, donc avec Lamia de Sea Shepherd qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Lamia.
Bonjour.
Bonjour Lamia.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On voulait vous recevoir parce qu'aujourd'hui, on parle du peuple des mers et Sea Shepherd, c'est quand même sa principale mission, s'intéresser à ce qui se passe pour un certain nombre d'individus des mers. Est-ce que vous pourriez nous présenter Sea Shepherd? Quelles sont ses campagnes? Quelles sont ses missions?
Sea Shepherd, c'est une ONG qui existe depuis 1977. Ça a été fondée par le capitaine Paul Watson à son départ de Greenpeace. Donc en fait, ce que cherche à faire Sea Shepherd, c'est pallier un manque crucial qui est le fait qu'il n'existe pas de police internationale en haute mer pour protéger la biodiversité marine et les écosystèmes marins. Donc c'est une organisation anti-braconnage. Donc même si Sea Shepherd est plus connu pour ses actions en faveur des baleines, on a des campagnes pour protéger aussi les requins, les phoques, les dauphins et même des animaux un peu moins charismatiques comme les concombres de mer.
Mmh. Sea Shepherd, vous avez des bateaux qui sillonnent les mers. Est-ce que vous pourriez décrire, par exemple, une scène de pêche à laquelle vous auriez assisté?
Ben, alors en fait, effectivement, on a une flotte de 5 navires, dont 4 qui sont en campagne régulièrement et un qu'on a donné à l'archipel des Galapagos pour protéger le parc national. En fait, nos actions, elles sont particulièrement tape à l'œil, on va dire, parce que notre modus operandi, c'est pas la protestation, c'est l'intervention. Mmh. Donc de là, il en découle parfois des accrochages qui peuvent être violents, surtout de l'autre côté d'ailleurs, puisque nous on n'a jamais blessé personne en 35 ans. Le fait est que comme on s'attaque à des actions qui sont illégales et contre des braconniers, ils n'ont pas d'image de marque à préserver, ils n'ont pas les mêmes scrupules que nous on peut avoir. Et donc de l'autre côté, on a des gens qui sont extrêmement déterminés parce qu'on parle de il y a énormément d'argent en jeu. Hein, c'est, mmh. Voilà, quand on veut sauver les requins, on s'attaque à un trafic qui est un des trafics les plus lucratifs après le trafic de drogue et le trafic d'armes. Donc on parle de centaines de millions d'euros. de dollars. Et donc forcément en face, ça génère une opposition qui est très violente. Alors en fonction des campagnes, ça dépend. Si vous voulez que je vous décrive, je peux éventuellement vous décrire la campagne la plus proche de nous, c'est-à-dire celle qu'on a fait en Méditerranée pour le thon rouge. Mm-hmm. Où là, c'était différent de l'Antarctique dans le sens où c'était pas vraiment une bataille navale. Là, on est tombé sur une cage qui remorquait 800 thons rouges qui avaient été braconnés en eau libyenne. La Libye, c'est une des dernières zones de reproduction du thon rouge en Méditerranée, et en même temps, c'est une zone de non-droit où il n'y a aucun contrôle. Donc c'est là qu'on s'est rendu, et en deux jours, on est tombé donc sur ces braconniers. Donc là, ce qu'on a fait, c'est envoyer des plongeurs à l'eau avec des couteaux pour couper les filets et libérer les thons. Ça a été assez impressionnant dans le sens où là, on envoyait des hommes à la mer. C'était pas de la tôle contre de la tôle, et sur les bouées des sur les bouées de la cage, il y avait des pêcheurs qui étaient armés de couteaux et qui voulaient vraiment en découdre pour sauver leur butin, hein, vraiment, parce que 800 thons rouges, ça représente à peu près un million d'euros. Avant le passage en engraissement, parce qu'ensuite, quand ils sont engraissés, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Là, récemment, il y a un seul thon rouge qui a été vendu plus d'1 million d'euros. Donc, on parle de sommes qui sont colossales. Donc, forcément, en face, il y a une agressivité qui peut être assez intimidante. Donc, voilà. Après, il y a eu pas mal d'actions. Notamment, c'est ça qui a lancé un peu Sea Shepherd. C'était les sabordages à quai. Hein, donc, mm-hmm. Paul Watson qui avait coulé des baleiniers illégaux, toujours à quai, toujours avec personne à bord. C'était des baleiniers qui agissaient en dehors des lois et qui tuaient illégalement des milliers de baleines sans qu'aucune pétition, évidemment, ou aucun lobbying ne puisse les arrêter. Vraiment, c'est le problème avec ces bateaux pirates. Alors voilà, nous, si vous voulez, on a l'emblème du pirate en réponse à ça aussi. C'est parce que, comme l'explique Paul Watson, il n'y a que des pirates qui peuvent arrêter des pirates. Les bureaucrates et les politiques n'arrêteront pas la piraterie en mer. Et il donne pour exemple Henry Morgan, qui est le seul, qui est un pirate, et qui est celui qui a réussi à arrêter la piraterie dans les Caraïbes, mmh. parce que les politiciens étaient trop corrompus, et parce qu'ils avaient aussi des intérêts à ce que cette piraterie elle se maintienne. Donc aujourd'hui, on est un peu dans le même cas de figure, si vous voulez, parce que nous, on essaye de sauver ce qu'on peut dans les océans pour eux-mêmes et puis pour les générations futures, puisque ces organismes, ces gouvernements qui sont censés protéger tout ça, n'en sont pas les propriétaires. Nous, on nous a fait des remontrances quand on a libéré ces thons rouges. On nous a dit, ça n'est pas à vous de le faire. Oui, très bien, mais l'organisme qui est censé le faire ne le fait pas. Or, ces thons rouges n'appartiennent pas au gouvernement. C'est un patrimoine mondial. Et voilà, si les gens qui sont censés faire le boulot ne le font pas, nous, on a décidé de ne pas rester assis les bras croisés et attendre que tout ça disparaisse.
Ouais, vous insistez souvent hein, pour dire que les actions que vous faites, en fait, ce sont effectivement des actions qui sont menées lorsque le cadre légal est dépassé depuis longtemps par les pêcheurs. Et voilà, bon, après, pour les thons rouges, c'est clair que ça a dû les libérer d'un coup du piège dans lequel ils étaient tombés. Du coup, là, enfin, ce dont vous parlez, ce sont des filets hein, qui sont
ce sont des filets, en fait, c'est une cage hein, qui est faite avec des filets très, très solides. Mmh. Ils sont remorqués en mer pendant 3 semaines jusqu'à un endroit où ils sont engraissés. Et en fait, ils sont remorqués à très faible vitesse. Mmh. Et c'est à ce moment-là que nous, on est intervenus pour les libérer alors qu'ils étaient en phase de remorquage vers la ferme d'engraissement où ils auraient été engraissés pendant plusieurs mois avant d'être tués et exportés vers le Japon.
D'accord.
Voilà. Mais effectivement, on ne s'attaque qu'à des actions illégales. Alors, ça nous arrive de dénoncer des actions légales parce qu'elles sont légales mais qu'elles sont immorales. Hein. Par exemple, le chalutage de fond, la pêche en eau profonde, tout ça, ça devrait être illégal aujourd'hui avec ce qu'on sait des dégâts que ça fait dans les océans.
Ouais, c'est en discussion ça au Parlement européen, il me semble. Et puis là, ils ont demandé très récemment à faire des études complémentaires, comme si on avait besoin d'études complémentaires avant de prendre des décisions fermes. Quoi.
Mais bien sûr, on sait déjà tout ce que ça fait. On sait que la France est un boulet en Europe.
C'est un boulet.
Ah oui, oui, oui. La France avait mis son veto pour que la pêche en eau profonde ne soit pas interdite. Enfin, la France est vraiment très, très en retard et tire vers le bas en matière de progression à ce niveau-là. Donc,
c'est la même chose pour les animaux terrestres. On a exactement les mêmes cas de figure, en effet, où la France ne prend pas du tout... c'est le boulet de la Commission européenne qui s'oppose à tout un tas de mesures qui iraient dans un sens un peu meilleur.
Tout à fait. C'est le même état d'esprit en mer et à terre. Donc voilà, il y a du boulot à faire en France. Je suis pas sûre que ce soit le reflet de la population française. Je pense en tout cas qu'il y a un très très fort lobby à la fois agriculteurs et au niveau des pêcheurs. Je pense que ça se retrouve dans les deux niveaux. Donc, et c'est pareil en mer comme à terre au niveau des agriculteurs. Ce sont les plus gros qui sont le plus favorisés. C'est les plus gros pêcheurs qui ont les plus grosses subventions. Ce sont ceux qui ont les bateaux qui détruisent le plus et qui gagnent le plus, qui sont finalement financés par l'argent public. Voilà. Donc c'est un système mortifère qui a aucun sens économique et qui favorise vraiment les plus forts au détriment du plus grand nombre.
Et surtout des poissons.
Mais en l'occurrence, c'est vrai que je trouve toujours intéressant de ramener ça aussi à une problématique humaine parce que ça parle aux gens et que finalement on est vraiment dans le même bateau. On est dans le même bateau. Et ce qui est mauvais pour la nature est mauvais pour nous et c'est la même logique. Et je pense que le jour où on aura compris qu'il ne s'agit pas uniquement de sauver la planète, il s'agit surtout de nous sauver nous, peut-être qu'on prendra les mesures qui s'imposent. C'est vraiment nos destins sont liés et je pense qu'on est un peu arrogant de penser que la planète va mourir à cause de nous, même si on cause énormément de dégâts et qu'on détruit énormément d'espèces, on finira par y passer et puis la vie repartira ensuite, pas à notre échelle, mais on aura tout détruit et on se sera détruit avec. On est une espèce en voie de disparition, même si on n'en donne pas l'impression. Quand on atteint les taux démographiques qu'on a atteints aujourd'hui, si vous voulez, les trois signes de disparition d'une espèce, c'est l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc on est en plein dedans.
Ouais, voilà. Pas mal, ouais.
On se regarde dans un miroir, et voilà. Donc voilà, même si on a l'air d'être très nombreux, on est vraiment sur la pente descendante. Et puis surtout, aujourd'hui, 80% des ressources sont consommés par 20% de la population humaine. Donc, c'est pas parce qu'on est plus nombreux que tout va bien.
Oui. Bah, sur la répartition des ressources, on l'avait bien montré aussi dans le cadre de viande.info. Effectivement, c'est pas du tout réparti de façon égalitariste entre les différentes régions du monde. Ça, c'est clair.
Bah, c'est vrai que si les gens mangeaient déjà beaucoup moins de viande, ça irait beaucoup mieux.
Ouais, bah ça c'est une bonne transition sur la soirée qu'on aura le 25 avril.
Nos bateaux sont véganes d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Nos bateaux sont véganes parce que donc on ne sert aucun produit animal ni sous-produit. Parce qu'on estime que c'est cohérent avec le combat qu'on mène et avec le discours qu'on tient. Donc voilà.
Justement à ce sujet, en fait, comment se passe la vie sur le bateau? Comment est composé l'équipage?
Disons que ça a pas mal changé ces dernières années puisque jusqu'à il y a 4-5 ans, on avait un seul navire. Donc là, on en a 4. Donc ça fait 120 membres d'équipage. Ils viennent de 23-25 pays différents. Il y a des profils extrêmement différents. C'est vraiment...
Lamia, on t'entend moins bien. Est-ce que...
Là, vous m'entendez?
Ouais, mais c'est loin.
Ouais.
Là, vous m'entendez nous? Ou pas?
Toujours pas, mais enfin, ça va, on t'entend quand même. On va tendre l'oreille.
Dans la mer, peut-être?
Je vais essayer de parler fort. Donc, je disais, on a des profils extrêmement différents à bord, des gens qui viennent de tous les horizons. On a des gens qui sont des véganes depuis des années, et on a aussi des gens qui, dans leur vie tous les jours, sont des omnivores, mais qui vont devenir véganes en étant sur les bateaux.
Ouais.
Et c'est assez intéressant. Moi, quand j'ai rejoint Sea Shepherd il y a 8 ans, je mangeais encore de la viande et du poisson. Et c'est vrai que mon aventure avec Sea Shepherd a fortement contribué à me faire évoluer à ce niveau-là.
Je me rappelle qu'on s'était croisés il y a très très longtemps, effectivement, et qu'on avait eu cette discussion à Toulouse, il me semble, il y a très longtemps.
Ah, ben, il y a quelques années alors.
Ouais.
Ouais, voilà. Donc, bon, c'est une aventure humaine hein, sur les bateaux de Shepherd. C'est vrai que voilà, on mène des campagnes qui sont très très axées sur, enfin, qui sont précises. Hein, mais c'est aussi bien, c'est enrichissant au niveau humain et en même temps bah, pour la cause en elle-même, parce qu'on rencontre des gens qui ont des parcours intéressants et que ça permet de partager aussi les expériences des uns et des autres. Et voilà, et puis en général, bon, quand vous mettez 50 personnes sur un bateau et que vous partez en mer pendant quelques semaines, ça donne toujours des choses assez intéressantes. Donc,
mais il faut avoir voilà. des compétences particulières quand même, j'imagine.
Alors ça dépend, ça dépend. C'est vrai que les gens qui ont des compétences particulières sont... sont favorisés parce qu'on a toujours besoin de gens qui ont de l'expérience en navigation dans la salle des machines, mais c'est pas un critère comment dire obligatoire. Mm-hmm. C'est pas obligatoire. On peut très bien être simplement extrêmement motivé, passionné, avoir envie de travailler dur et avoir du temps. Et dans ce cas, vous serez sur le pont et on vous apprendra ce qu'il y a à faire. Au fur et à mesure, à ce moment-là, il faut arriver un peu avant la campagne pour être un peu quand même familier avec ce qu'il y a à faire au moment où on prend la mer.
Et on sait au départ quel est l'objectif de la campagne pour laquelle on part. Est-ce qu'on est
Oui, parce que bon, non plus tant de campagne que ça. On est limité aussi par nos moyens essentiellement. Ouais. Donc en fait. Là, ça va être soit la campagne en Antarctique pour les baleines, soit une campagne en Méditerranée pour les thons rouges. Il y a eu aussi les campagnes pour les bleu-bicéphale aux îles Féroé, donc c'est le plus grand massacre de mammifères marins en Europe. Là, on est en train de travailler sur une prochaine campagne en Afrique. Voilà, en général, quand on arrive, on sait pourquoi on part. Ouais.
Et les moyens d'action aussi. Enfin, je sais que par moment, les bateaux sont coque à coque, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une conscience sur les bateaux de risque quand même qu'on prend, quoi ?
Alors ça, c'est quelque chose que vous signez avant de partir. Mmh. Alors même si on peut pas vous dire bon voilà ce qui va se passer tel jour telle heure, on va faire telle opération. Oui. Parce que forcément, il y a des choses qu'on maîtrise pas et qu'on peut pas prévoir. Par contre, ce qu'on signe dans le formulaire de candidature, c'est le fait qu'on a conscience du fait que les opérations peuvent être risquées et qu'on accepte. On accepte de potentiellement risquer sa vie quand on fait une campagne avec Sea Shepherd. Alors voilà, il faut vraiment partir en connaissance de cause. On n'y va pas pour protester, on n'y va pas pour arborer une banderole. On y va vraiment pour intervenir. Mm-hmm. Donc ça veut dire que en face de nous, en fonction de qui on a en face de nous et jusqu'où ils sont prêts à aller, ça peut devenir dangereux. Et c'est sûr que la dernière chose qu'on veut, c'est une fois en mer, une fois au moment d'agir, avoir des gens qui se rétractent et qui disent « non, moi je veux pas le faire ». Donc non, tout est dit à l'avance, on sait pourquoi on s'embarque, on sait pourquoi on signe. Après voilà, personne n'est candidat au suicide sur les bateaux. Mmh. S'il n'y a jamais eu de blessés en 35 ans, c'est pas par chance. C'est parce que on a un capitaine qui est Paul Watson qui sait aussi très bien ce qu'il fait et qui ne prend pas de risques démesurés. Mais par contre, c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai un souvenir de en Antarctique avec une houle de 8 mètres de haut. On avait, c'était notre ancien bateau, le Sparley Moat, qui était un très vieux bateau qui avait 50 ans, et le Nishin Maru, qui est le navire usine qui fait 8000 tonnes, qui était 10 fois plus gros que le nôtre, qui nous fonçait droit dessus. Donc c'était une mesure d'intimidation, hein, c'était pour nous faire dégager. Et je me souviens que on avait décidé de ne pas bouger, parce qu'à partir du moment où on bougeait, c'est que c'était terminé en fait, on ne pouvait plus rien faire. Et donc la collision était annoncée pour dans 2 minutes. Donc voilà, je donne un peu le cadre. Au plein milieu de l'Antarctique, une houle de 8 mètres de haut, un navire de 8000 tonnes qui vous fonce dessus, collision dans 2 minutes. Avec la sirène du navire qui résonne à fond dans l'air. Enfin, c'est là vraiment.
On a l'impression que c'est la fin.
J'ai cru que c'était terminé. Mais à aucun moment je me suis dit j'aimerais être chez moi. Et puis d'ailleurs, à la dernière seconde, le bateau a viré de bord et il a bien vu qu'on était déterminés et qu'on ne bougerait pas. Et c'est ça le message qu'on voulait leur envoyer. Et quand on embarque avec Sea Shepherd, il faut s'attendre à ça, il faut être prêt à ça. Sinon, il y a plein d'autres façons d'aider. en étant à terre, il y a plein de choses à faire pour aider l'association ou pour aider les océans. Mais vraiment, sur les bateaux, il faut savoir pourquoi on s'embarque.
Combien de temps elles durent, les missions, grosso modo? Est-ce qu'il y a une moyenne ou est-ce qu'elles peuvent être assez courtes? Ou j'imagine en Méditerranée, c'est plus court que d'aller jusqu'en Antarctique?
Oui, voilà, c'est ça. C'est en fonction des campagnes, les dates sont très variables. Pour l'Antarctique, il faut compter minimum 4 mois. La Méditerranée, ça peut être 3 semaines, 1 mois. Voilà, les îles Féroé, ça avait été un mois et demi, presque 2 mois. Donc, oui, ça dépend des zones dans lesquelles on intervient. Forcément, l'Antarctique, il faut une semaine de bateau, ne serait-ce que pour arriver sur place. Et puis ensuite, la saison dure extrêmement longtemps. Donc forcément, il faut bloquer quelques mois sur son emploi du temps.
Je pensais à une autre question. Oui, tu as souligné tout à l'heure que c'était vraiment important aussi d'avoir des gens qui soient motivés pour faire des choses à terre, parce que là, effectivement, c'est bien, enfin, c'est très motivant, très valorisant d'être sur les bateaux. Et je le vois aussi sur les différentes actions qu'on organise. En fait, il n'y a pas de petit poste quelque part. C'est du travail de fourmi qu'on fait. Il y a besoin vraiment, vraiment de gens partout, de façon à être efficace, quoi. Enfin, voilà, c'est. J'imagine que pour Sea Shepherd aussi, il y a tout ce qui concerne la préparation qui doit demander énormément de temps. Finalement, c'est une des faces immergées de l'iceberg, les expéditions en bateau, mais tout ce qui est en amont, préparation, tout ce qui est justement d'aller chercher, d'aller pousser la Commission européenne, par exemple, à aller au bout de ses retranchements pour constater de fait son inaction. Tout ça, c'est vraiment du travail très très important aussi.
Bah, bien sûr, je pense que les campagnes en même temps, c'est un travail à terre par les équipes de volontaires qui travaillent à terre, à faire connaître les enjeux, à communiquer sur les missions.
On t'entend mal de nouveau.
On t'entend mal.
Là,
c'est
vous
bon.
M'entendez mieux?
Oui,
ou pas?
Oui, là, c'est mieux.
Oui, d'accord. Donc, je disais, sans les équipes à terre, les campagnes en mer pourraient pas avoir lieu. Là, vous m'entendez ou pas?
Ouais, super.
Ouais, okay. Bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est essentiel, même si ça se voit beaucoup moins. C'est ce travail à terre, ce travail de fourmi qui devient finalement assez colossal, qui permet ensuite de faire des missions d'intervention en mer qu'on voit tous. C'est finalement, que le résultat de tout un travail qu'il y a eu en amont et donc voilà, nos équipes à terre, elles sont au moins aussi importantes que nos équipages en mer, qui certes prennent des risques mais qui sont aussi finalement dans le cœur de l'action. Donc c'est un côté valorisant. Donc moi je trouve ça aussi extrêmement extrêmement louable, ces gens qui travaillent à terre pour rendre possible des missions auxquelles finalement ils ne participeront pas directement. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde aussi. Hein. Parmi nos équipes à terre, il y en a qui nous disent tout de suite, moi les bateaux, je ne partirai jamais en mer, c'est pas mon truc, et puis j'ai pas envie de ça. Mais il y en a qui aspirent à ça et qui savent que bah, ils pourront pas le faire tout de suite, parce que bon, je crois qu'on a à peu près 5000 candidatures pour 120 places.
Ouais.
Donc voilà, alors. Donc bon, il y a une petite liste d'attente, mais en même temps, il y a une rotation. Il y a une rotation. Et c'est vrai que sur les 5000 candidatures, il y a aussi des gens qu'on n'a jamais vus et qu'on ne connaît pas. Donc entre quelqu'un, je dirais à candidature, à compétence égale, entre quelqu'un qui est investi dans une structure de Sea Shepherd à terre, et quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler, forcément, c'est le volontaire à terre qui sera favorisé.
Il y a un noyau dur, j'imagine, au niveau, sur le bateau.
Oui, 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 bien sûr, il y a, bien sûr.
Ouais. Et sinon, une autre question, en fait, est-ce que vous avez l'évaluation du nombre d'animaux sauvés? Est-ce que vous avez une évaluation de...
Alors, c'est très difficile d'évaluer sur les 35 ans de Sea Shepherd. Donc, c'est plus facile pour nous de le faire sur la campagne antarctique, par exemple. Mm-hmm. C'est un peu moins de 5000 baleines, parce que là, en fait, je crois que c'est 4600 et quelques baleines sauvées rien que sur l'Antarctique, parce qu'on se base, en fait, sur les objectifs japonais et le, le comment dire le décalage avec ce qu'ils n'arrivent pas à prendre à cause des Shepherds. Après sur les globicéphales par exemple, donc les baleines pilotes et les dauphins aux îles Féroé, en juillet-août de 2010, ils en ont tué 630. En juillet-août 2011, où on était là, ils en ont tué aucun. Donc voilà, c'est en faisant des comparatifs comme ça. Bon, après, il y a des centaines de kilomètres de filets dérivants qui ont été confisqués, de longues lignes. Il y a des...
Ah, t'es reparti.
La mienne.
C'est la mère. Oui, vous m'entendez?
Oui, c'est bon.
Et je disais, un baleinier pirate comme le Fiera qui tuait près de 10 000 baleines par an, bon, le jour où il a été coulé, vous voyez, c'est...
C'est toujours ça de gagner, oui, comme on dit.
Ah ben, c'est énorme. Disons que c'est beaucoup déjà en termes mathématiques parce que le bateau même ne prend pas la mer, mais c'est aussi ça a aussi un effet ricochet sur la flotte baleinière en général parce que ça les oblige à prendre une assurance de guerre, ce genre d'action. Et l'assurance de guerre, elle est 3000 fois supérieure à l'assurance classique. Donc en fait, ça rogne sur leur profit et c'est dissuasif aussi pour ceux qui veulent se lancer dans ce business-là. Donc difficile de chiffrer, mais c'est énorme. Il y avait un peu plus de Sea Shepherd, je pense que...
Oui, on pourrait essayer de protéger l'ensemble des poissons. Effectivement, on a une évaluation, là, on est à plus de 1300 milliards d'animaux qui meurent des conséquences de la pêche chaque année, quoi. Donc,
c'est assez
énorme, quoi.
On a du mal à se rendre compte. Mais je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on s'en réfère aussi, bon, alors pas pour les baleines, mais quoique, si aussi, on s'en réfère en tonnes.
Voilà, mais l'évaluation qu'on donne là, c'est une évaluation justement qui a été faite par Alison Mood pour Fish Count, justement, qui a cherché à déterminer le nombre d'individus que ça représente.
Voilà.
Quoi. Et donc là, on est à 1 milliard 300 000 individus qui meurent des conséquences de la pêche, de l'aquaculture chaque année. Et sur ces 1 milliard 300 000, elle a essayé d'évaluer aussi tout ce qui est prise fantôme, prise accessoire, etc. Tous ces poissons qui sont même pas comptabilisés dans la pêche commerciale au final.
Bah, je sais que c'est Philippe Curie qui avait écrit dans son bouquin Une mer sans poisson. D'après lui, la pêche fantôme est plus importante que la pêche active. Donc il y a encore plus d'animaux qui meurent du fait de ces filets qui sont perdus, c'est assez surréaliste. Je pense que à terre, ce serait difficile d'avoir l'équivalent aujourd'hui, en tout cas. Il y a eu des carnages à terre. Aujourd'hui, on pourrait plus se permettre de faire ça de toute façon, parce que je pense qu'il y aurait.
Namia.
Le chalutage de fond, c'est 150 fois la surface de déforestation qui est chalutée en mer chaque année. Alors que c'est l'équivalent. Finalement, c'est la destruction de toute vie sur le passage de l'engin. Voilà.
Et juste une dernière petite question, en fait. Vous avez parlé tout à l'heure d'une campagne, une future campagne en Afrique.
Ouais.
Vous pouvez juste nous dire quelques mots?
Je ne peux pas vous dire grand-chose.
Ah, d'accord. Okay.
Malheureusement, je ne peux pas vous dire plus. Mais dès que ça sera possible, on communiquera bien sûr là-dessus. C'est une campagne qui est extrêmement importante. Je pense qu'il était vraiment temps que Sea Shepherd débarque en Afrique, justement.
Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview. Et puis,
merci à vous d'avoir.
Voilà. On envoie la musique, le morceau suivant, un classique.
Thank you.
c'est un du Grand Bleu d'Éric Serra. Nous allons maintenant vous parler un petit peu du monde perceptif des poissons. Les oreilles intérieures des poissons perçoivent tout un monde aquatique que les humains ne peuvent appréhender sans l'aide d'hydrophones. Sans avoir de corde vocale, les poissons parlent bien. Ils produisent des sons qui leur permettent de communiquer des états comme la cour, l'alarme ou la soumission. La sensibilité des poissons à la lumière est supérieure à la nôtre. Et beaucoup de poissons des profondeurs voient dans une pénombre où un chat ne verrait pas. Concernant la sensibilité aux odeurs, certains poissons, comme les saumons, peuvent parcourir des milliers de kilomètres au cours de leur migration et plusieurs années plus tard reconnaître à l'odeur leur cours d'eau d'origine. De nombreux poissons sont sensibles aussi aux champs électriques qu'engendre tout être vivant et peuvent ainsi détecter une proie cachée sous le sable.
Une chose, une petite légende qu'on a, c'est que les poissons ne saignent pas. En fait, on devrait dire qu'ils saignent peu. Et pour s'en rendre bien compte, on peut se rendre sur le site d'Igualdad Animal, Animal Equality, qui a filmé une campagne de pêche au thon. Et voilà, on peut dire, enfin, l'image qui nous reste après, c'est vraiment des images assez difficiles à regarder et c'est une vraie boucherie. Il y a du sang partout sur le pont, partout sur les hommes et évidemment sur les poissons qui sont harponnés. Voilà, donc les poissons ne saignent pas, c'est encore une idée fausse qu'on a du poisson.
Et on peut donc dire que les poissons ont cette véritable capacité à souffrir. En accord avec leurs autres sensibilités, la capacité des poissons à ressentir le stress et la douleur ne fait pas de doute. Lorsqu'ils sont poursuivis, enfermés ou menacés de toute autre manière, ils réagissent comme le font les humains face au stress, par l'augmentation de leur fréquence cardiaque, de leur rythme respiratoire et par une décharge hormonale d'adrénaline. La trop grande promiscuité ou la pollution les amène à souffrir de déficiences immunitaires et de lésions organiques internes. Le système nerveux des poissons ressemble étroitement au nôtre. Quand ils sont blessés, les poissons se tordent, halètent et exhibent d'autres signes de douleur. La plupart des poissons qui produisent des sons vocalisent quand on les touche, quand on les tient, quand on les poursuit. On a souvent entendu dire que les poissons ne ressentiraient ni souffrance, ni détresse, ni plaisir parce qu'ils ne possèdent pas de néocortex, qui est le siège de la sensibilité. D'autres zones permettent des perceptions sensibles et nous avons bel et bien des preuves aujourd'hui de la sensibilité des poissons.
Eh bien oui, en plus, donc les poissons, on les met à mort de façon, on va le voir, avec les différents types de pêche, de façon assez cruelle. L'idée que les animaux tués pour être mangés devraient être abattus dans des conditions qui limitent leur souffrance est largement acceptée. Pourtant, les poissons sauvages sont capturés et tués d'une manière totalement incompatible avec cette idée. La capture de poissons sauvages peut durer de quelques heures à plusieurs jours. La plupart d'entre eux sont susceptibles de mourir écrasés dans des filets, par suffocation au contact de l'air ou bien disséqués vifs. Ils peuvent être rapidement réfrigérés alors même qu'ils suffoquent encore. Un procédé qui peut à la fois accroître et prolonger leur souffrance. La durée de cette agonie varie selon les espèces, le traitement, mais aussi la température. Elle peut se prolonger de 25 minutes à 4 heures, et pour les anguilles, par exemple, on peut en aller encore au-delà. À titre de comparaison, elle peut aller, cette agonie, jusqu'à 14 minutes pour les bovins. Donc sur les poissons, on est vraiment sur des temps d'agonie qui sont largement supérieurs. En fait, lorsqu'on parle de pêche, on ne parle ni de cueillette, ni d'exploitation minière, mais bien de chasse. Les mers, les lacs et les cours d'eau sont hérissés de pièges humains qui conduisent à la mort des centaines de milliards d'animaux chaque année. Les bateaux sont de mieux en mieux équipés pour ne laisser aucune chance aux poissons, à la fois par la sophistication des outils de capture et par la multiplication des équipements permettant de repérer leurs proies.
Donc, il est intéressant de connaître aussi les différents types de pêche. Dans la pêche à la scène tournante et enveloppante, le bateau encercle un banc de poissons avec un filet qui est ensuite resserré, puis hissé et généralement vidé dans la saumure liquide maintenue sous 0 degré. Ceux qui ne meurent pas écrasés ou étouffés sont victimes de choix thermiques. Dans la pêche au chalut, un bateau se déplace en traînant derrière lui à travers l'eau un énorme filet. Tous les poissons qui y entrent sont poussés par les mouvements de traction en direction de son extrémité en cul-de-sac effilé. Pendant un temps, qui peut durer de 1 à 4 heures, les poissons pris sont tirés et pressés les uns contre les autres. La décompression que subissent les poissons devient alors insoutenable dès lors que leur remontée forcée a lieu depuis une certaine profondeur. Il arrive souvent que la pression interne fasse éclater la vessie natatoire ou sortir les yeux de leurs orbites ou l'œsophage et l'estomac par la bouche. La pêche au moyen de filets maillants. Il s'agit de filets positionnés verticalement dans l'eau, tel un mur. Les poissons piégés luttent pour se libérer et risquent de se retrouver plus emmêlés encore. Le fait de se débattre peut provoquer des lésions au niveau de la peau et des écailles. Les poissons peuvent rester ainsi de nombreuses heures, voire des jours, et peuvent mourir avant d'être déchargés. Il y a aussi la pêche à la ligne à main et la pêche à la canne. Le poisson est attrapé individuellement avec un hameçon et une ligne. Sur certains bateaux, les lignes sont remontées de façon mécanique. Ce type de pêche effectuée depuis un bateau qui se déplace est appelé pêche à la traîne. Le hameçonnage des poissons provoque ainsi des lésions graves et génère des souffrances supplémentaires. D'autre part, il existe aussi la pêche à la canne longue. On attire les poissons à la surface au moyen de poissons à pas, souvent vivants d'ailleurs. Les poissons mordent à des hameçons attachés aux lignes des pêcheurs. Bien que l'opération de capture soit de courte durée, le poisson ressent bien sûr peur et douleur. La pêche, une autre pêche qui est la pêche à la palangre. C'est une méthode de pêche utilisant des centaines, voire des milliers d'hameçons qui sont accrochés à une seule et même ligne. On utilise souvent des poissons vivants comme appât. Une machine semi-automatique empale les poissons vivants sur les hameçons lorsque la ligne est déployée. Une palangre peut mesurer entre 50 et 100 km de longueur. Toujours beaucoup de stress, de réactions d'alarme, de lésions fatales pour les poissons, car le temps de capture est très long. Il peut parfois durer plusieurs jours. Et un autre type de pêche qui est le piégeage, qui est une méthode de pêche dans laquelle les poissons peuvent être capturés vivants et arriver indemnes lorsqu'ils pénètrent dans les cages où se trouvent les appâts. Et là, il s'agit souvent des homards, en fait. Autre méthode qui est le harponnage. Le harpon est donc une flèche à pointe munie de barbelures lancée sur un poisson. Cette méthode est utilisée pour attraper des espèces de grande taille, telles que l'espadon. Après avoir harponné le poisson, on le laisse nager jusqu'à épuisement. Une fois épuisé, il est placé dans une sangle et hissé à bord. Voilà encore ce qui cause de terribles souffrances pour tous ces animaux.
Et en plus des prises attendues, donc celles qu'on a l'intention de pêcher quand on est un pêcheur, une partie des animaux capturés ne correspondent pas aux espèces ciblées ou sont trop jeunes. Ils sont alors rejetés à la mer, morts ou agonisants. C'est ce qu'on appelle les prises accessoires. Dans certaines pêcheries de chalutage de crevettes, le rejet peut atteindre 90% de la prise. 89% des requins marteaux et 80% des requins blancs et des requins renards ont disparu de l'Atlantique Nord-Est dans les 20 dernières années suite aux prises accessoires. La pêche fantôme fait aussi des prises innombrables. Par exemple, quand un filet maillant est perdu ou abandonné, Lamia nous en a parlé tout à l'heure, il continue à pêcher tout seul pendant des mois ou des années. Et donc, Alison Mood, dont vous trouverez un petit résumé dans les cahiers antispécistes, a essayé de chiffrer le nombre de poissons qui étaient ainsi attrapés. Parce que, contrairement aux animaux terrestres, où on sait qu'il y en a environ 60 milliards qui sont tués chaque année dans les abattoirs, on n'a pas d'évaluation du nombre de poissons. À chaque fois, ils sont comptés en tonnes. Donc cette personne, Alison Mood, s'est lancée pour essayer de compter ce nombre de poissons et elle est arrivée à une évaluation qui donne à peu près 1000 milliards de poissons pêchés chaque année, plus de 1000 milliards de poissons pêchés chaque année. Et puis ces prises accessoires, ces prises fantômes, elle considère que ça représente au minimum un tiers de ces prises. Donc on est à plus de 1 300 000 individus arrachés dans la mer et ça ne compte pas l'aquaculture qui fait aussi aujourd'hui à peu près la moitié du tonnage des poissons.
Et donc aujourd'hui on parle justement de la surpêche. Les poissons sont de plus en plus nombreux dans les océans. Ils ne se reproduisent pas assez vite pour remplacer leurs congénères pêchés. Et en décembre 2006, une équipe dirigée par Boris Worm a calculé qu'au milieu du XXIe siècle, les espèces les plus couramment pêchées aujourd'hui pourraient avoir disparu si la pression humaine, c'est-à-dire que la surpêche, la pollution et la destruction des milieux, continue au rythme actuel. La pêche se tourne aujourd'hui vers des poissons d'eau profonde, ayant décimé ceux des eaux peu profondes. Les chalutiers français et espagnols ont été les premiers à se spécialiser dans ce domaine. La France est le premier pays d'Europe, ça il faut le savoir, en matière de pêche et de consommation de poissons de grand fond.
Rien d'étonnant du coup à ce que la France s'oppose à des mesures pour limiter cette pêche de grand fond.
Oui. Et on pourrait croire aussi que l'élevage de poissons et de crustacés est un moyen de relâcher la pression sur la faune aquatique sauvage. Et donc l'aquaculture est une mauvaise solution, c'est une idée fausse. L'aquaculture accroît au contraire la demande de produits de la pêche. Les poissons d'élevage les plus prisés sont des carnivores, comme les saumons, dorades, barres, truites, turbots, nourris avec des farines et des huiles de poissons de fourrage, comme les anchois, les sardines, les merlans bleus. Il faut entre 2,5 kg et 5 kg de poisson pour produire 1 kg de poisson carnivore d'aquaculture. Le rendement est sensiblement meilleur pour les crevettes. Il est désastreux pour le thon rouge, dont on a parlé tout à l'heure, un grand prédateur surpêché dont on cherche à développer l'élevage. 10 à 20 kg de poisson pour 1 kg de thon rouge.
Si on s'intéresse maintenant à la consommation pour la France représente environ 25 kilos par année et par personne. En France, la France est un des premiers pays consommateurs de poissons au monde, juste après l'Espagne. Donc voilà, la France a une très grande responsabilité dans ce qui se passe dans les milieux aquatiques, dans ce massacre organisé pour... manger soi-disant, alors que effectivement pour être en bonne santé, on n'en a vraiment pas besoin. Pour en savoir plus, on peut vous inviter à vous tourner vers le site des cahiers antispécistes sur lequel il y a un dossier sur la pêche. Vous pouvez aussi découvrir, ça donne l'occasion d'en parler, l'exposition qui actuellement est à la mairie du 2e à Paris, qui est une exposition pour se diriger vers une alimentation durable. Et il y a une partie qui est consacrée justement à ces animaux marins où vous pourrez retrouver quelques données. Donc c'est à la mairie de Paris 2e à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 mai. D'ailleurs ce soir il y a une conférence débat avec la projection d'un film, le film Love Me Tender, qui aura lieu à la salle Gendarme 17 rue Léopold Bellan à 18h30 où on vous invite chaleureusement à venir nous retrouver. Voilà, un petit peu de musique avant de vous proposer une idée de recette originale et puis de voir notre agenda.
Tes petits poissons...
rouges.
As-tu une vue daltonienne? Mes petits poissons...
verts.
Si mon assiette est végétalienne, je suis pas un alien, j'ai pas de haine. Même si je ris...
jaune.
Que j'ose un humour...
noir.
Troublant.
Blanc.
Que j'ai une peur...
bleue.
Du trou...
noir.
Comme de la marée...
marée noire.
Ma mémoire d'Erika. Je ris pas, mais mon artie rit. Car si ma mère se fait
violer,
mon arme est un arc-en-ciel de mots pour la protéger. Un archange pour que tu changes. Un narcotrafic de rimes pour que tu manges des oranges et que je range ma rage. Un arc qui s'arrange pour te faire marrer du danger. Reste à marrer, tenir la barre et ne pas me défiler. S'il nique ta mère par défilé, je dis que Moby Dick les maudisse. Une tempête et t'en chie, t'en pisse. Si c'est pas marrant d'être marin, hisse. Et oh, le capitaine Igloo n'a pas de peine, pas de tristesse. Glou glou, il picole.
Et maintenant, comme chaque mois, des petites recettes. Il existe donc des recettes dont les ingrédients sont issus de la mer, mais qui ne nuisent pas pour autant aux animaux qui y vivent. Il s'agit des végétaux, comme les algues, dont on vante souvent les mérites, car elles puisent dans leur environnement marin une richesse minérale exceptionnelle. Elles sont riches en fer, en protéines, en iodes, en calcium et en zinc. Vous pouvez vous procurer des algues dans beaucoup de boutiques bio. Vous trouverez nos recettes de tartare d'algues et de maquis sur le site prochainement de L214.
Voilà, ce sera mis en ligne demain avec toutes les références bibliographiques qui nous ont permis de réaliser cette émission. Dans les secondes qui nous restent, voilà, quelques invitations, l'agenda, n'hésitez pas à retrouver les différentes associations de protection animale. Alors l'agenda, il est en ligne aussi sur le site d'L214, dans la rubrique Agir, Vous avez l'agenda, vous y retrouverez donc la projection de ce soir, l'exposition du jeudi Veggie, une invitation pour venir à Alès les 11 et 12 mai manifester contre la corrida, la Veggie Pride qui aura lieu du 16 au 20 mai à Genève avec un car affrété au départ de Paris et au départ de Lyon pour aller rejoindre cette manifestation qui a lieu une fois par an. Donc la Veggie Pride en elle-même aura lieu le 18 mai avec des animations tout autour. Ensuite, vous avez une manifestation contre la fourrure directement devant, aux alentours d'un élevage de visons à Emmagny le 1er juin. Une manifestation à Strasbourg pour venir au secours des Galgos le 8 juin. Une manifestation particulièrement importante aussi, la marche pour la fermeture des abattoirs qui aura lieu le 15 juin à Paris et à Toulouse. Et enfin, à Dijon, une chaîne humaine pour protester contre le centre d'élevage des souches qui élève des beagles à destination des animaux de laboratoire. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le 28 mai de 11h à midi pour la prochaine émission Bonjour Voisins, consacrée aux animaux et présentée par une petite équipe de L214, association de protection animale que vous pouvez retrouver sur L214.com.
On se connaît un peu quand même, avec ses cloisons en papier mâché et votre chambre qui donne sur la mienne. Ce qui est un peu gênant, c'est la télé, surtout quand on n'est pas sur la même chaîne. Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire que j'ai un drôle de métier, quand vous partez, je m'en retourne, tantôt de nuit, tantôt de matinée, les machines, il faut que ça tourne. Je ne vois pas tous les jours mes enfants, mais faut pas se plaindre, allez, on va de l'avant. Bonjour voisin, comment ça va? Depuis 10 ans qu'on habite là, c'est la première fois qu'on se voit. Bonjour voisin, c'est ma foi vraie, 10 ans qu'on vit sur le même palier, sans même une fois se rencontrer. Faut dire qu'on sait plus bien où on en est, à quel saint vouer ses prières, mais nous du moins, on a la liberté, entrez donc prendre un petit verre. J'ai là un petit blanc qui est pas piqué, nous avons des amis dans les corbières. Non, non, voisin, je ne peux pas, ça sera pour une autre fois, le jour de l'an, ou bien le jour des rois. Au revoir, voisin, on se reverra à Pâques ou à Saint-Nicolas, dans ce bas monde, ou bien dans l'au-delà.
Que passe, people, que passe, hit me!
Bonjour, c'est Bob Garcia sur IDFM 98. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches de 20h30 à 21h30 dans Jazz Actu. Une heure consacrée à l'actualité de la planète jazz. Au programme, des interviews exclusives, des coups de cœur, les concerts à ne pas rater, mais surtout de la musique. Les meilleurs morceaux de jazz sélectionnés pour vous, dans tous les styles et pour tous les goûts. Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes, c'est tous les dimanches de 20h30 à 21h30 sur IDFM 98.
IDFM.
Chaque premier mardi du mois, Radio Anguin avec le MIF95 présente Panorama RH, l'émission dédiée à la gestion des ressources humaines des PME du Val d'Oise. Témoignages de professionnels de terrain, thématiques économiques, conseils en direction des actifs et dirigeants des PME et associations. Panorama RH sur IDFM Radio Anguin, présenté par Corinne Guerlin, conseillère en gestion de carrière.
Vous écoutez IDFM Radio Anguin sur les 98 FM.